Vous êtes sur RTL.
Le journal inattendu de Bruno Solo
avec Ophélie Meunier sur RTL.
Bonjour Bruno Solo.
Bonjour Ophélie.
Merci d'être avec nous et de prendre ce midi les commandes du journal inattendu. Acteur de cinéma, de fiction télévisée, de théâtre, votre vie professionnelle a été une nouvelle fois bouleversée il y a quelques jours par le fameux couvre-feu. Vous jouez en ce moment au Théâtre de Paris la pièce 10 ans après de David Fuenquinos. Hier vendredi, pas commun, je suis venue vous voir sur scène à 18h30. J'étais bien rentrée chez moi avant 21h. Vous aussi, c'est ça votre nouvelle vie d'acteur et c'est ça notre nouvelle vie de spectateur. Alors comment vous le vivez ? Quel avenir pour le monde de la culture et du spectacle ? On en parle avec vous dans un instant. Bruno Solo, vous êtes aussi un passionné d'actualité. Alors, à 10 jours de l'élection présidentielle américaine, avec notre invité Laurent Saïm, journaliste spécialiste des États-Unis, et Lionel Gendron, notre correspondant RTL qui est en ce moment en Arizona, on traversera l'Atlantique pour prendre le pouls de l'Amérique à la veille d'un scrutin qui s'annonce historique. Malgré une actualité bouleversante, on garde les bonnes habitudes et comme chaque semaine, on commence par l'autoportrait. C'est le moment de vous présenter. Alors Bruno Solo, qui êtes-vous ?
Eh bien, je m'appelle Bruno Lassalle et si je devais définir mon trait de caractère principal en un seul mot, je dirais que je suis quelqu'un de curieux, curieux de tout et de tous. Je suis né en 1964, un 23 septembre, une date qui, d'après les chiffres officiels, est le jour de l'année où il y a le plus grand nombre de naissances. Une date qui aurait donc dû me pousser à faire preuve de la plus grande humilité et de beaucoup de discrétion du fait qu'on est un paquet à être arrivé en même temps et qu'il n'y a vraiment pas de quoi la ramener. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'à défaut d'être totalement discret et humble, je suis acteur, il faut pas exagérer non plus. La nature m'a en revanche doté d'un physique parfaitement banal, notamment pour le sport par exemple. 1m73, une taille médiocre au regard des grands, costaud et dominateur, et moyenne au regard des petits, vifs et agiles. Un corps passe-partout donc, surmonté d'une tête au visage arrondi plutôt que d'un élégant ovale, recouvert de cheveux aujourd'hui gris et plus rares, mais hier d'un brun tout ce qu'il y a de plus commun, des yeux marrons quand d'autres les ont noisettes, d'un nez que j'ai longtemps cru droit et grec, jusqu'au jour où un miroir latéral me le révéla tordu et bosselé. Et enfin, une bouche trop petite pour se offrir un sourire aussi radieux qu'hollywoodien, d'où peut-être ma modeste carrière. Ne pouvant donc tout miser sur mon physique, tel Jean-Claude Duss, mon maître étalon, ma référence, mon modèle réduit, si j'ose dire, j'ai décidé très tôt d'adopter en guise de compensation un patronyme prestigieux, lâchement emprunté à un personnage aussi chevaleresque que flamboyant, Han Solo le Magnifique. Mais pour finir de m'achever, moi et mon autoportrait, sachez que j'ai récemment été confronté à une surprenante découverte en tapotant mon nom sur Internet, poussé par un élan présomptueux quant à un commentaire qu'on m'avait dit être élogieux sur une de mes performances quelconques, enfin peu importe. Étant également une buse de compétition en matière de recherche Google, je fulminais de ne trouver cet article et m'égarais dans les méandres du net quand, au détour d'un clic funeste, je découvris que Solo, est surtout internationalement connu pour être le nom d'une marque de papier toilette. Comme quoi, la curiosité, seule qualité que je revendiquais au début de cet autoportrait, peut aussi être parfois ingrate et cruelle.
J'avais envie d'être curieuse pendant cette heure. Je ne sais pas si c'est une bonne idée.
Oui, vous voyez. Et c'est vrai que j'ai preuve à l'appui. Hein. J'ai la photo. Vous pouvez aller taper Solo papier toilette. Voilà.
Et
c'est une marque de margarine aussi en Belgique. L'humilité me rattrape très vite.
Allez, tout de suite, le journal et les titres. 2/3 des Français désormais soumis au couvre-feu, des hôpitaux qui s'organisent pour augmenter leur capacité d'accueil en réanimation. La deuxième vague est bien là. Et après avoir franchi le cap du million de cas détectés en France, il est possible que des mesures sanitaires encore plus restrictives soient prochainement mises en place. Une des nombreuses conséquences de cette pandémie, c'est l'augmentation du nombre de personnes qui se retrouvent en grande précarité en France. Des foyers tentent d'accueillir un maximum de sans-abri, alors qu'il n'est désormais plus permis d'être dehors après 21h. Dans la majeure partie du pays, Jean Castex doit présenter dans un instant le deuxième volet du plan pauvreté. Match très attendu ce soir en rugby, le 15 de France rencontre le Pays de Galles. Après 7 mois d'interruption à cause de l'épidémie, les Bleus sont impatients de fouler la pelouse du Stade de France. Et puis la météo, Valérie, c'est un week-end plutôt doux qui s'annonce.
Oui, c'est vrai qu'on va garder des températures très douces malgré un ciel quand même passablement nuageux sur les trois quarts du territoire. D'ailleurs, on va trouver le soleil dans le sud. C'est déjà le cas alors qu'il est entre l'Aquitaine et la Méditerranée. Des éclaircies qui vont gagner les régions alpines, mais aussi en remontant jusqu'au sud de l'Alsace. Partout ailleurs, franchement, c'est raté. En plus, il y a des averses qui vont circuler sur un gros quart nord-ouest assorti de fortes rafales. De vents rafales qui atteindront les 100 km/h sur les côtes du Finistère, 60 à 70 dans les terres. reste les températures. Donc, 14 degrés à Chamonix aujourd'hui, 16 à Bar-le-Duc, 18 à Paris et Lille, 19 degrés à Tarascon, 20 degrés à Montpellier et 21 à Brignoles.
Merci Valérie. On vous retrouve à 18h parce qu'à 13h, c'est vous, Bruno, qui faites la météo. Je crois que vous étiez curieux de ce que
c'est vrai, la vraie pression. J'ai entendu une professionnelle. Maintenant, ça y est, je me sens plus prêt.
Le journal inattendu sur RTL.
L'épidémie de Covid-19 s'emballe en France. Le pays a franchi hier la barre symbolique du million de cas détectés, dont un peu plus de 40 000 enregistrés ces dernières 24 heures. Certains hôpitaux, comme à Roubaix ou à Tourcoing, ont dû transférer des patients atteints du Covid-19 pour organiser de nouveaux espaces de réanimation durant le week-end. Au CHU de Lille, l'activité a doublé par rapport à la semaine dernière. La deuxième vague est bien là et elle est forte, comme nous le confirme Gilles Pialou, infectiologue à l'hôpital Tenon à Paris. Il était l'invité de RTL ce matin.
On l'a appelé couvre-feu pour essayer de revenir un peu sur l'insouciance de l'été et l'insouciance de la rentrée et faire un électrochoc aux Français. Mais globalement, c'est un confinement nocturne. Donc l'étape d'après, c'est le confinement non nocturne. Il faut être très clair, c'est le confinement comme on le connaît. Alors évidemment, le confinement national, c'est quelque chose qui est compliqué à envisager, qui a été désastreux sur le plan économique, qui était probablement excessif, mais on n'avait pas d'autres moyens dans la mesure où l'épidémie était concentrée dans certaines régions, les Hauts-de-France, l'Île-de-France, le Haut-Rhin. Là, on est dans une épidémie nationale, donc ça va faire beaucoup de zones de confinement. Et comme je le dis parfois, on peut aussi confiner des populations, et pas seulement les personnes âgées. Voilà, c'est une autre hypothèse.
La piste de mesures encore plus restrictives à venir se confirmerait donc. Nouvelle étape déjà franchie cette nuit. Ce sont désormais 54 départements et un territoire d'outre-mer qui sont soumis au couvre-feu. Les deux tiers de la population française devront rester à la maison de 21h à 6h du matin. Comment vous vivez ce couvre-feu, Bruno Solo, personnellement ?
Écoutez, avec, si ce n'est avec docilité, avec obéissance. Et voilà, parfois c'est deux valeurs qui peuvent se confondre. Moi, je sais que, évidemment, à titre personnel, des fois, je me dis, mais est-ce que c'est si utile? Est-ce qu'on n'est pas en train de nous priver de nos libertés et tout? Le problème, indépendamment du fait que je fais confiance quand même à ceux qui semblent savoir et qui nous disent que c'est le seul moyen d'endiguer l'épidémie, le problème, c'est que même lorsque, à titre personnel, je dis, lorsque j'aurais envie de m'exprimer sur le sujet, d'émettre des réserves sur cette liberté entravée, sur peut-être que les solutions me semblent du zèle, parfois un peu excessif, ceux qui le défendent ardemment, l'idée que c'est sur les... sont phagocytés par des gens que je n'ai pas envie de rejoindre. C'est-à-dire des gens qui gueulent contre des choses qui me semblent voilà, du complotisme, des conspirationnistes. Voilà, il y a certains mouvements que je trouve légitimes mais qui sont trop vampirisés par des gens que je trouve pour le coup illégitimes pour que j'ai envie de m'associer à eux. Alors à titre personnel, en solo, eh bien, je me dis que effectivement, je respecte. De temps en temps, je m'en veux parce que moi, mon mantra, c'est il m'est odieux de suivre autant que de guider, qui est un mantra nietzschéen. Je me dis voilà, j'aimerais bien pouvoir un peu me rebeller, mais je pense que la rébellion, elle doit être ailleurs et notamment dans l'exercice. À titre, encore une fois, puisque ça me concerne, à titre personnel, dans l'exercice de mon métier, celui d'acteur, où effectivement, en montant sur scène, nous donnons, ceux qui ont la chance de pouvoir faire ce métier, enfin, si tant est que ça soit une chance, nous donnons l'occasion à des gens de s'évader quelques instants et que je crois que la culture est essentielle pour affronter la vérité du monde en ce moment.
Ouais. D'autres métiers sont touchés économiquement, les restaurateurs et les patrons de bars.
Je pense que c'est un peu du même ordre que mon métier, cela, ce qui amène un peu de joie, effectivement, les restaurateurs, les patrons de bars, les patrons de boîtes de nuit, enfin ces gens-là sont...
On écoute Marco, patron d'un bar du centre-ville de Caen. Il est inquiet et désabusé.
Le sentiment, c'est un sentiment d'écœurement, d'injustice, d'épuisement. Nous sommes tous à bout de ne pas savoir où on va nous emmener. Les règles sanitaires sont obligatoires. Là, il faut agir forcément. Mais oui, quand on voit des métros blindés, des grandes surfaces qui vont être blindées pour Noël, tout ça, et nous fermer, honnêtement, on a un sentiment d'injustice, de grande tristesse, on n'en peut plus. On est vraiment tous à bout. Monsieur le maire nous promet des aides qu'on ne voit pas venir. On a déjà plombé la trésorerie une première fois. On nous a rien donné la première fois. Un fonds de solidarité à 1500 euros, bien sûr que ça ne suffit pas quand on a un loyer de 4000 euros. Moi, la dernière fois, j'ai été 4 mois sans rémunération. Et là, nous, le problème, c'est qu'on a des familles à nourrir, on a des enfants, on a tout à payer. On se sent vraiment laissé pour compte. On nous laisse crever.
Propos recueillis par Julien Caillard pour RTL. Pour enrayer l'épidémie, le gouvernement mise aussi sur la nouvelle application Tous Anti-Covid. Elle permet de tracer les malades du coronavirus et les cas contacts. Il s'agit en fait d'une nouvelle mouture de l'application Stop Covid avec des fonctionnalités plus attractives. Pensez à la télécharger. Dans l'actualité également, le deuxième volet du plan pauvreté qui est annoncé aujourd'hui par le Premier ministre. Jean Castex, qui est d'ailleurs en ce moment en visite dans un foyer Emmaüs à Épinay-sur-Orge, dans l'Essonne. Les associations attendent beaucoup face à une situation qui s'est aggravée depuis la pandémie. On compte 1 million de pauvres supplémentaires en France à cause du ralentissement de l'activité économique et du confinement. D'ailleurs, suite à l'annonce du couvre-feu, la question se pose pour les sans-abri. Que faire de ceux qui dorment dehors à partir de 21h et qui sont en plus fragiles? Des foyers s'organisent pour augmenter leur capacité d'accueil, comme nous l'explique Bruno Morel, patron d'un centre.
À ce jour, nous avons repéré 182 cas. Nous avons quand même constaté, malheureusement, que les personnes qui sont à la rue, de par leur parcours de rue, ont des fragilités médicales qui les exposent encore plus au risque épidémique et surtout à une complexité de ce risque. Malgré tous les efforts qu'a fait l'État pour ouvrir des places, il reste encore des gens dehors. Il y a régulièrement une cinquantaine de personnes qui se présentent à nos portes pour qui on n'a pas de solution. Quelqu'un qui est à la rue, qui se prendrait une amende de 135 euros, ça n'a aucun sens. Donc nous sommes extrêmement vigilants. S'il y a des verbalisations qui n'ont pas lieu d'être, puisque les consignes sont claires, qu'on puisse faire remonter toutes les difficultés.
Il était au micro d'Anaïs Bouissou. Bruno Solo, ça vous fait réagir?
Ah oui, vraiment, parce que ça, c'est les vrais laissés pour compte. C'est vraiment les plus abandonnés de tous. Les sans domicile fixe, quoi. Dans ces moments si terribles, la revendication d'un toit est la plus légitime qui soit, la plus essentielle, la plus viscéralement importante pour nos sociétés, c'est que chacun puisse s'abriter du froid, de la chaleur, des agressions inhérentes au fait de dormir dehors. Moi, j'ai participé à une campagne initiée par Marc Melki, qui est un photographe, où nous dormions dans la rue l'espace d'une journée pour qu'il fasse des photos. L'espace de 2 heures, nous vivions ce que vivent au quotidien plein de gens, et ça avait été déjà quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Et ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai toujours eu très fort conscience de ça. J'ai longtemps participé à des actions du DAL, du droit au logement, et c'était une des promesses de ce gouvernement, qu'il n'y ait plus du tout de SDF dans la rue. C'est une promesse qui, alors, peut-être très difficile à tenir, mais qu'il ne faut pas avancer si on ne se donne pas véritablement les moyens politiques de résoudre ce problème.
Le logement, une question qui sera abordée normalement aujourd'hui par le Premier ministre pour le plan pauvreté. Aux États-Unis, à J-10 de l'élection présidentielle, les deux candidats, Joe Biden et Donald Trump, ont promis que le vaccin contre le Covid-19 serait gratuit pour tous. Le républicain à la traîne dans les sondages a affirmé que ce futur vaccin pourrait être prêt dans les prochaines semaines. Les États-Unis ont battu leur record de nouvelles contaminations ces dernières 24 heures avec près de 80 000 nouveaux cas détectés. Il reste le pays le plus endeuillé au monde par la pandémie. À 13h dans le journal Inattendu, on traverse l'Atlantique avec notre invité Laurent Saïm, journaliste spécialiste des États-Unis, qui nous rejoindra dans ce studio. On fera avec elle le point sur un pays plus divisé que jamais avant un scrutin qui s'annonce historique. Dans un instant, on parle sport et rugby avec le match France-Pays de Galles ce soir à 21h10 au Stade de France. Jean-Michel Rascol nous dira comment vont les Bleus à quelques heures du coup d'envoi. À tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Bruno Solo, Ophélie Meunier.
Le journal inattendu sur RTL.
Avec Bruno Solo et Ophélie Meunier.
La suite du journal, c'est les sports avec tout d'abord du rugby. Ce soir, c'est le premier match de l'automne du 15 de France après 7 mois d'interruption. Les Bleus rencontrent le Pays de Galles à 21h10 au Stade de France. Malgré le contexte et un match à huis clos, on est tout de même impatient de retrouver nos Bleus, Jean-Michel Rascol.
Oui, il est important que le 15 de France reprenne le fil d'un récit qui avait enthousiasmé les supporters l'hiver dernier dans le tournoi des Six Nations. Alors avant de recevoir l'Irlande la semaine prochaine pour l'ultime acte de ce tournoi à rallonge, il y a ce test de préparation ce soir à huis clos, un match que les joueurs de l'équipe de France dédient justement aux amateurs de rugby frustrés de ne pas pouvoir les encourager ce soir de vive voix. Porte-parole du 15 de France, le talonneur Julien Marchand et le troisième ligne Grégory Aldrit.
On se sait déjà très soutenu, il y a beaucoup de monde qui nous met des messages, que ce soit par les réseaux sociaux ou autres d'ailleurs, mais en tout cas voilà, on sait qu'il y a du monde derrière et puis on est tous On va tout donner, bien sûr, pour essayer de les mettre comme s'ils étaient dans le stade avec nous.
C'est vrai que c'est le genre de match qu'on aimerait jouer devant 80 000 personnes. C'est surtout pour eux qu'on est déçus. Il y a quelques clubs qui ont déjà expérimenté de jouer à huis clos ou à jauge réduite. Donc on sait à quoi s'attendre et il n'y aura pas d'excuses. Non.
Car même sans public, l'opposition s'annonce rude. Le succès du 15 de France à Cardiff l'hiver dernier a laissé des traces. Surtout chez les Gallois.
Jean-Michel Rascol du service des sports de RTL. Du foot avec la 8e journée de Ligue 1. Rennes s'est incliné hier à domicile face à Angers. Défaite 2-1. Match à suivre aujourd'hui, Lorient-Marseille à 17h et Paris reçoit Dijon à 21h. On refait le match à 18h30 avec Christian Olivier, suivi de RTL Foot jusqu'à 23h. Et puis ce score peu commun à noter. Hier, l'équipe de France féminine de football a corrigé la Macédoine du Nord. 11-0, dont 4 buts d'Eugénie Le Sommer. C'était un match éliminé pour l'Euro 2022. Bruno Solo, en ce moment, vous partagez la scène, on passe à toute autre chose, direction le Théâtre de Paris.
Ah, c'est du sport le théâtre,
Mélanie Page et Julien Boisselier pour la pièce 10 ans après, signée David Fuenquinos. Alors avant de parler de la pièce, il y a 10 jours, une partie de la France et le monde, on en a parlé, de la culture ont été bouleversées par ce fameux couvre-feu. Où vous étiez quand vous avez appris cette annonce ?
J'étais chez moi.
Comment vous avez réagi ?
J'ai réagi. Bon, on s'y attendait. Donc, il n'y avait pas la même stupéfaction que lors de la première annonce du confinement au mois de mars, je me souviens, où là, on espérait jusqu'au dernier moment que les choses allaient s'assouplir. On ne savait pas. Et puis là, maintenant, force de l'habitude, on commence à s'habituer à des annonces de plus en plus restrictives, de plus en plus péremptoires, de plus en plus radicales. Et donc,
on est presque dans une sorte de
résilience, de fatalisme forcé, comme ça. Mais je regardais mon fils, moi, qui a 21 ans. J'ai deux enfants, une fille de 16 ans, un garçon de 21 ans. Et je regardais mon fils, et lui, il était blême. Lui, il était blême parce que, moi, j'ai 56 ans. Je savais quand même, tout de suite, dès lors qu'il a annoncé les mesures, je me suis dit, mon spectacle dure une heure et demie, on pourra peut-être s'adapter.
Ouais, nous avions encore. Oui, bah, vous bien avez sûr. Le réflexe de.
Parce qu'on en avait parlé avant, de avec des patrons de théâtre, avec nos. Oui, par rapport à mon métier, évidemment. Je me suis dit, ça va être compliqué. Mais potentiellement, il y a matière à jouer jusqu'à 21h ou 20h30. J'espérais que Roselyne Bachelot, qui avait fait la démarche de demander au gouvernement,
Elle s'est battue à son premier ministre,
que les billets pourraient faire foi pour les gens qui rentreraient, qui auraient un petit quart d'heure. Bon, Jean Castex et Bruno Le Maire, je ne sais pas de quoi il s'est mêlé sur ce coup-là, mais peu importe, ont décidé qu'il n'y aurait pas d'exception. Ok, on s'est réadapté en mettant les spectacles à 18h30 plutôt que 19h. Donc voilà. Mais après, effectivement, une fois qu'est égoïstement, j'ai eu pensé à mon petit confort et que je me suis dit finalement, on devrait faire partie de ceux qui s'en tirent, ce qui n'est pas le cas de tous les spectacles. Il y a des spectacles trop longs qui ne peuvent pas s'adapter. Après, j'ai commencé, évidemment, on a toujours ce réflexe un petit peu personnel. J'ai regardé mon fils et mon fils, c'était blême. Mon fils, il a 21 ans, il a fait des études de hôtellerie-restauration, maintenant il fait de la musique. Voilà, il est en pleine force d'âge, d'avoir envie de rencontrer des copains, des copines, de sortir, de rigoler. Il est plutôt raisonnable, d'une, parce qu'il sait ce qu'il en coûte. Pour l'instant, il habite encore à la maison, même s'il est majeur, donc il doit un petit peu encore nous écouter. Mais pour autant, il a beau être raisonnable, il s'est vu là, enfermé à partir de 19h, 20h à la maison et ne plus pouvoir bouger. Et je me suis dit, nom de nom, qu'est-ce que c'est compliqué pour un paquet de gamins en ce moment, d'où qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. Ça, pour le coup, il y a une sorte d'uniformisation de la tristesse, hein, ça concerne tout le monde. Mais c'est difficile là, d'être un jeune en ce moment et de pouvoir. Et je comprends qu'ils aient de temps en temps des élans un petit peu de se dire allez, on s'en fout, on va faire des fans clandestines. Il faut les raisonner, les comprendre et les raisonner. Mais bon, voilà, c'est très difficile à gérer. Et là, je vois, oui, il est malheureux que lui et tous ses camarades de son âge, et même un peu plus vieux, il y a beaucoup de gens qui sont très malheureux, mais pour les jeunes c'est un peu dur. Depuis 6 mois, être jeune, c'est véritablement une année, on peut le dire, hein, pardon, mais une année de merde 2020 pour eux.
Et voilà. Un peu dur aussi pour vous quand même sur la scène.
Oui.
Malgré
oui,
tout,
oui.
Vous êtes adapté. Alors parlons de la pièce. Le pitch, en deux mots, vous êtes assureur. Il y a 10 ans, votre meilleur copain vous a piqué votre femme, mais 10 ans après, il décide de la quitter en votre présence et il décide de vous la rendre. Extrait.
Mais j'ai décidé de la quitter en ta présence. T'es complètement dingue. Puis je refuse d'être mêlé à vos histoires, enfin. Mais attends, c'est la tienne aussi. Si tu ne me l'avais pas présentée, nous n'en serions pas là ce soir. Oui, je me dis que c'était un peu comme si je te la rendais.
Comme si tu me la rendais quoi?
Mais
Comme si je t'avais emprunté ta femme.
Ça vous fait rire de vous entendre.
Bah oui, parce que j'avais jamais entendu une version audio de la pièce.
Ah oui.
Et puis bon, voilà, quand on joue, on est dedans, même si l'oreille est le meilleur ami, la meilleure amie du comédien, bien plus que l'œil. L'oreille ne vous trahit pas. L'œil peut vous trahir, jamais l'oreille. Et là, justement, là, je me rends compte et je me dis, tiens, l'intonation, comment elle passe, qu'est-ce qui déclenche. Là, on entendait donc Julien et moi, c'est un échange, c'est le moment où il m'annonce qu'il va me rendre ma femme. Alors, c'est une pièce assez étrange. Quand on connaît l'œuvre de David Fuenculos, on peut pas soupçonner que ce soit un affreux misogyne, machiste et sexiste. Bien loin de là, il suffit de lire un petit peu son travail, son œuvre à David, voir ses films, ses pièces et ses romans, comme La Tendresse par exemple, ce merveilleux roman. Et là, ça part comme une sorte de farce un peu misogyne, assez dégueulasse, ou des et à toi, à moi je te la passe, et puis voilà. Et puis petit à petit, ça bascule, sans rien révéler, vers une fable plutôt féministe, où on s'aperçoit tout simplement que ces deux crétins sont incapables de voir l'amour dont ils sont submergés et incapables de survivre. Voilà, ils vont à l'encontre de ce que disait Spinoza, qui disait « Le bonheur, c'est peut-être de continuer à désirer ce que l'on a déjà ». Et effectivement, eux, ils pensent que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs. Je vous laisse parler, Ophélie, parce que comme vous l'avez vu, vous vouliez intervenir.
Non, mais bien retenir ça quand on va voir la pièce. Oui. Le bonheur, voilà, constitue à apprécier ce qu'on a déjà. Exactement. Dans un instant, on continue
c'est pas
à parler.
Moi, c'est de Baroque Spinoza.
À parler théâtre avec vous, Bruno Solo. Restez avec nous. On se retrouve après une courte pause sur RTL.
Le journal inattendu de Bruno Solo.
Avec Ophélie Meunier sur RTL.
Alors Bruno Solo, en plus de la culture, vous avez un autre combat, c'est celui de l'écologie. Vous êtes aujourd'hui parrain de GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres.
Absolument.
Sauver nos arbres, c'est le cri que lançaient début septembre des habitants de Vertoux, en Loire-Atlantique, pour s'opposer à l'abattage de 16 arbres dans le cadre d'un projet de réaménagement d'un site très apprécié des promeneurs. Après 3 semaines de mobilisation et 8600 signatures au bas d'une pétition, le chantier est abandonné. Ces 10 chênes et 6 marronniers ne seront pas abattus, mais d'autres arbres risquent maintenant la tronçonneuse dans un parc juste à côté. Et de nouveau, les riverains se mobilisent. C'est votre reportage inattendu. Il est signé Patrice Gabart.
Le choc est immense cette semaine quand les bénévoles de la toute nouvelle association La Sève, sauvegarde de l'environnement à Vertoux, débarquent au parc de la Sèvre. Tous les arbres alignés le long de la rive sont barrés d'une croix de peinture rouge. Rien à voir avec le futur chantier d'abattage qu'ils dénoncent. Sans doute un acte isolé, revendicatif, par provocation. Impossible de le savoir, mais cet acte révolte Marie Bousta qui a déjà saisi sa brosse.
J'essaye de nettoyer en fait les croix rouges qui ont été faites par quelqu'un qui apparemment n'aime pas les arbres. On a été même accusé officieusement bien sûr d'avoir fait ces croix-là. Nous, quand on veut protéger un arbre, on met un tissu jaune autour de l'arbre. On ne va pas taguer des arbres, c'est une évidence.
Pendant ce temps, toute l'équipe déploie ses panneaux d'information pour sensibiliser la population.
Bonjour messieurs, dames. Vous avez entendu parler de notre action ?
C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était terminé. Puis là, je suis surprise de voir que...
En fait, on a découvert pendant notre lutte qu'il y avait une demande de dérogation et sur ce plan, il y a 38 arbres de par ici, dans le parc de la Sève, qui sont menacés également.
Bah, moi, je trouve ça stupide parce que bon, c'est dommage, c'est très joli. En plus, là, on voit avec l'automne, les couleurs sont magnifiques. C'est dommage d'abîmer un site comme ça. C'est scandaleux même.
Je suis un peu choqué parce que je ne pensais pas que c'était vrai. Couper ces arbres-là, pour moi, c'est un massacre.
Ben, ce serait un sacrilège.
Les commentaires s'additionnent et les signatures se multiplient sur la nouvelle pétition. Cathy Turgis, présidente de l'association.
Ici, il y a des chênes des marais. La plupart, apparemment, sont menacés pour être remplacés par des lampadaires qui font à peu près 9 mètres. Il y a à peu près 20% des forêts qui sont en train de dépérir à cause des changements climatiques. Et les maires continuent impunément à couper des arbres qui sont bien installés, qui, eux, sont en train de résister à la sécheresse.
De son côté, la mairie de Vertoux rappelle qu'elle compte 21% d'espace naturel et qu'elle plante aujourd'hui, par exemple, derrière une école, 5000 arbres avec des essences locales qui consomment peu d'eau.
Le problème aujourd'hui, c'est que les arbres replantés ne repoussent pas très bien. En fait, il faut vraiment préserver les arbres qui sont bien installés et qui sont en bonne santé.
Pour terminer, une question de Cathy Turgis à notre invité, alors qu'elle noue un joli bandeau de tissu jaune autour d'un arbre pour tenter de le protéger.
Bruno Solo, comment peut-on imaginer nos futurs combats pour sauver les arbres ?
Eh bien, justement, c'est la mission du Groupement National de Surveillance des Arbres qu'a initié un gars formidable qui s'appelle Thomas Braille, que j'ai connu dans dans un cadre tout à fait différent. Il s'occupait d'un festival de musique dont j'étais aussi le parrain et dans lequel j'ai joué parce que j'ai fait pas mal de musique dans ma jeunesse. Je continue à en faire à l'occasion. Et puis cet homme, il s'occupait d'arbres. Voilà. Et puis à force de travailler dans les arbres, pour les arbres, de les connaître et d'avoir travaillé avec des botanistes, des scientifiques qui s'en occupent, il s'est aperçu qu'il y a plein de villes en France. Il a irradié sur toute la France, hein, dans ses quatre points cardinaux. Il s'est rendu compte qu'il y avait une sorte de volonté de certaines mairies, pas tous, hein, parce qu'il y a des mairies qui s'opposent aussi à des décisions préfectorales, mais beaucoup de maires qui abattaient des arbres pour des raisons absolument spécieuses, absolument pas justifiées, pour dégager par exemple la vision d'une enseigne qu'on ne voyait pas, parce que les commerçants, pour des prétextes du genre c'est accidentogène, comme s'il y avait des aimants dans les arbres qui attiraient les voitures. Évidemment, quand une voiture rentre dans un arbre, c'est pas la faute nécessairement de l'arbre, et voilà. Et puis en plus, les arbres sont souvent, les arbres sont protégés par des barrières métalliques. Donc, vraiment des arguments qui ne valent pas le coup, surtout en ce moment où, avec le réchauffement climatique, malgré les climato-sceptiques, on sait que ça existe. Je ne veux même pas m'adresser à ceux-là. Ils sont, hélas, un peu trop nombreux à mon goût. Mais on sait que les arbres aspirent l'oxyde de carbone, sont essentiels à notre existence, essentiels à notre devenir. Et donc, il y a une sorte d'aberration d'abattre pour des raisons scandaleuses un nombre d'arbres, et en plus avec des faux arguments comme quoi ces arbres sont malades et risquent d'infecter d'autres. Alors on envoie, le GNSA systématiquement envoie des spécialistes sur ces lieux concernés pour analyser, pour voir si ces arbres effectivement sont dangereux ou sont susceptibles d'empoisonner les arbres alentours. Et 9 fois sur 10, pour ne pas dire 99 fois sur 100, c'est faux. Donc les arguments sont faux. Donc ces batailles, ce qui est génial avec le GNSA, c'est qu'il a créé plein de petits groupuscules, si j'ose dire, un peu partout en France, et avec des signalements qui sont faits par les citoyens, par les riverains, qui s'opposent à ces abattages intempestifs, et qui signalent au GNSA, qui vient donc intervenir. Et il y a quelques batailles qui ont été gagnées, comme celle de Vertou, mais il y en a qui sont perdues. À Reims, qui est une des villes les plus polluées de France, je suis désolé de le dire, il y a des études qui ont été faites, en tout cas dans un des quartiers les plus pollués de Reims, eh bien, tout un parc a été abattu pour des raisons qui sont absolument fausses. Voilà. Donc, il y a effectivement un vrai souci. C'est un souci majeur parce que c'est véritablement, les arbres ont prouvé leur utilité, la prouvent encore plus aujourd'hui et le prouvent pour demain. Donc, sauver les arbres, c'est nous sauver aussi.
Allez voir le travail du GNSA, dont vous êtes le parrain et son président, l'un Thomas Braille. Dans un instant, on part de l'autre côté de l'Atlantique, direction les États-Unis à J-10 d'une élection présidentielle qui s'annonce historique. Merci d'écouter RTL, à tout de suite.
Le journal inattendu sur RTL.
Vous êtes bien sur RTL.
Le journal inattendu de Bruno Solo.
13h, les titres de l'actualité, Ophélie Meunier.
Une semaine après la décapitation de Samuel Paty, le gouvernement entend renforcer son projet de loi contre le séparatisme. Suite au Conseil de défense qui a eu lieu hier à l'Élysée, le Premier ministre a annoncé 2 dispositions supplémentaires. Il s'agit tout d'abord de la possibilité de sanctionner ceux qui mettent en ligne des informations personnelles mettant en danger la vie d'autrui. Le gouvernement souhaite également renforcer la protection des fonctionnaires et des agents publics en pénalisant ceux qui font pression sur eux. C'était le cas de Samuel Paty et de la proviseure du collège dans lequel il enseignait. L'épidémie de Covid-19 en France, les hôpitaux demandent du renfort. Le taux d'occupation des lits en réanimation dépasse désormais les 50% dans certains établissements. Et les personnels soignants s'attendent à vivre un engorgement encore au moins 6 semaines. Pour tenter d'endiguer cette nouvelle vague qui est belle et bien là en France, le couvre-feu a été étendu aux 2/3 du pays. Et le gouvernement n'exclut pas de mettre en place de nouvelles mesures de restrictions sanitaires si la situation ne s'améliore pas. Et sachez que toute l'Europe vit en ce moment une progression exponentielle des cas de Covid-19. C'est aujourd'hui que Jean Castex annonce le 2e volet du plan pauvreté. En marge d'une visite dans un foyer Emmaüs dans l'Essonne, l'épidémie de Covid-19 a augmenté fortement le nombre de personnes en situation précaire dans le pays. Pour les aider, le Premier ministre promet 700 millions d'euros d'aide, un soutien à l'insertion par l'emploi et un meilleur accès au logement. Et puis match très attendu ce soir en rugby. Après 7 mois d'abstinence, le 15 de France rencontre le Pays de Galles pour son premier match de l'automne. Les amateurs de rugby sont très impatients de retrouver les Bleus et ont une bonne opinion de l'équipe. D'ailleurs, ils sont 80% à miser sur une victoire de la France ce soir selon un sondage Odoxa RTL Winamax. La semaine prochaine, le 15 de France affrontera l'Irlande. Et puis des nouvelles du temps, c'est avec vous à 13h, Bruno Solo. C'est un week-end tout doux qui s'annonce.
Oui, bah ça fait du bien, de la douceur pour tous cet après-midi, mais du soleil uniquement dans le sud et dans l'est entre l'Aquitaine, la Méditerranée et des Alpes à l'Alsace. Partout ailleurs, un ciel nuageux, des averses et des vents assez forts en Bretagne, tiens. Et en Normandie notamment, les températures iront de 15 à 22 degrés entre les Ardennes et la Corse, 18 à Paris, Lille et Mâcon.
Mâcon, on n'en parle pas assez.
On n'en parle pas suffisamment de Mâcon. Voilà, je suis ravi de l'avoir fait.
Merci Bruno Solo.
On le boit très bien par contre.
L'actualité, c'est aussi l'élection présidentielle américaine qui a lieu dans 10 jours exactement. Bonjour Laurent Saïm, merci d'être avec nous.
Bonjour Ophélie.
Vous êtes journaliste spécialiste des États-Unis. Vous avez réalisé le documentaire Melania Trump, cet objet obscur du pouvoir, qui sera diffusé sur la chaîne parlementaire le 2 novembre. Juste avant, parlons du 3 novembre, jour d'élection. Commençons par faire un point clair sur les différents scénarios possibles du scrutin, qui est très attendu. C'est loin d'être aussi simple que ou Trump gagnant ou Biden gagnant.
Alors, j'ai toujours appris que l'élection présidentielle américaine se décide dans les 15 derniers jours, contrairement à ce qu'on dit. Et donc, je crois qu'on est vraiment rentré dans la phase finale où c'est imprévisible. Les trois scénarios sont les suivants. Il y a énormément de gens qui votent. 47 millions d'Américains ont déjà voté. C'est plus qu'en 2016. C'est-à-dire que tous les gens qui ont voté en 2016, ils ont déjà voté là, à 15 jours de l'élection. Donc, on s'aperçoit que ce sont des jeunes, que ce sont des vieux. C'est toute la tranche de la population. C'est aussi une tranche de la population qui ne votait pas. Et donc, ça peut être ce qu'on appelle un tsunami Biden. C'est-à-dire, il y a tellement de gens qui votent pour lui que le 4 novembre, on s'aperçoit qu'il a plus de 270 grands électeurs d'un seul coup. Je vous rappelle que c'est pas du suffrage universel direct, qu'il faut que ce soit 270 grands électeurs. Et donc, il y a beaucoup de gens qui peuvent être mobilisés pour Joe Biden. Premier scénario. Deuxième scénario, dans certains États où une fois on vote démocrate, une fois on vote républicain, on doit recompter. Et là, on peut être dans un scénario comme en l'an 2000, Bush-Gore, avec des recomptages et avec que va faire Donald Trump. Et là, il aura la clé de ce qu'il va décider. Est-ce qu'il précipite le chaos en faisant, en radicalisant comme il semble vouloir le faire il y a trois semaines, ou est-ce qu'il apaise le jeu comme il semble vouloir le faire depuis deux jours ? Personne ne sait. Et troisième scénario, tout le monde s'est trompé et c'est une victoire de Donald Trump, comme il ne cesse de le répéter là aussi depuis deux jours dans ses meetings. Et là, tous les instituts de sondage sont au chômage pendant très longtemps. Voilà, on est dans trois scénarios, dans une élection totalement imprévisible qu'il faut suivre parce que c'est une campagne dure. Et moi, je trouve que depuis 48 heures, depuis la fin du débat, on est vraiment rentré dans ce qui s'appelle le dur d'une campagne présidentielle.
Aujourd'hui, les États-Unis vivent une crise sociale et économique sans précédent. L'électorat de Trump, qui est aussi un électorat qui admire sa réussite dans les affaires, est-ce que cet électorat commence pas à être un peu déçu à devoir des promesses de réussite économique du pays qui sont pas tenues ?
Alors, il y a la pandémie et l'électorat Trump, il est touché par la pandémie. Il est extrêmement touché, notamment les gens qui ont plus de 65 ans, qui représentent pour l'élection américaine un corps électoral extrêmement important. Ils sont malades, on le voit en Floride. Il y a eu une étude qui est sortie il y a une semaine montrant que les plus de 65 ans en Floride qui avaient voté Trump vont maintenant voter pour Donald Trump. Mais en même temps, hier, Donald Trump était dans un lieu en Floride qui s'appelle The Village, où il y a une population de plus de 68 ans. Ce sont des retraités. C'est un passage obligatoire pour tous les candidats démocrates et républicains. Et il y avait des centaines de gens âgés, sans masque, qui étaient là pour applaudir Donald Trump, danser au son de YMCA, qui est visiblement sa nouvelle chanson dans ses meetings. Donc encore une fois, on ne sait pas ce qui va se passer et je crois qu'il faut vraiment le rappeler.
Vous parlez du masque. Le masque aux États-Unis est devenu un objet de communication politique comme nulle part ailleurs. On écoute les mots de Donald Trump lors de son premier meeting juste après son hospitalisation. Due au Covid-19, c'était en Floride.
Ce qui est bien avec moi, c'est que c'est bon, je l'ai eu, je suis immunisé. Je me sens tellement puissant. Je pourrais traverser cette foule, vous embrasser tous, les hommes, les jolies femmes, tout le monde.
Je pourrais vous faire de bons gros bisous.
Bah, le masque est un instrument politique dans cette campagne, c'est-à-dire que Joe Biden le porte, Joe Biden ne cesse de dire « attention, protégez-vous ». Et puis vous avez Donald Trump qui est dans ce qu'on appelle en américain une « storytelling électorale », c'est-à-dire une histoire qui semble marcher sur la base électorale. C'est-à-dire il a été hospitalisé, là il ressort, là aujourd'hui il va faire 5 meetings, il est extrêmement en forme, il danse sur scène et il montre ce que les Américains aiment bien, c'est-à-dire « je suis invincible et je résiste et je montre que je me suis battu contre la maladie ». Et c'est à prendre là aussi très au sérieux pour ces électeurs indécis qui hésitent toujours entre Donald Trump et Biden.
Alors on continue de parler des États-Unis avec vous dans un instant, Laurence Haïm, et on retrouvera Lionel Gendron, notre correspondant pour RTL. Il est en ce moment en Arizona. À tout de suite.
Le journal inattendu de Bruno Solo avec Ophélie Meunier sur RTL. RTL, le journal inattendu.
C'est le début de la semaine américaine sur RTL. On est avec Laurence Haïm, spécialiste des États-Unis, et aussi avec Lionel Gendron, notre correspondant pour RTL. Vous êtes en direct avec nous de l'Arizona. Bonjour Lionel Gendron.
Bonjour Ophélie, bonjour à tous.
Je sais qu'il est très très tôt pour vous. Merci d'être avec nous. Alors vous qui êtes sur place, à J-10, comment vous décririez l'atmosphère, l'ambiance aux États-Unis ?
Alors évidemment, ça dépend à qui on parle. Si vous discutez avec des supporters de Donald Trump, déjà, effectivement, la plupart du temps, ils ne sont pas masqués. Ce qui est assez frappant, ce qui peut même être assez troublant, c'est qu'ils ne doutent pas. Ils ne doutent jamais et on sent que c'est sincère. Quand on leur demande si Donald Trump va gagner, ils vous disent, il va gagner et on sent qu'il n'y a pas l'ombre d'un doute chez eux. Ils pourraient dire, ça va être compliqué, parce que les sondages ne sont pas favorables, mais on est persuadé qu'il va faire le maximum dans les derniers jours. Non, ils ne doutent pas. Si vous discutez avec les démocrates, déjà c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de meeting, donc les démocrates, faut aller les chercher, faut prendre des rendez-vous, donc ce n'est pas la même approche. Ils sont plus inquiets, même s'ils sont favoris, parce que pour l'instant, dans les sondages, en tout cas au niveau national, ils sont favoris. Et là, ils se disent, il faut absolument pas qu'on baisse la garde, il faut que les gens aillent voter, parce que c'est pas gagné, parce qu'effectivement, Trump fait peur, notamment dans les derniers jours de campagne, parce qu'il est très fort, il est très fort en meeting, il passe la seconde, comme le disait Laurence Haïm tout à l'heure. Et les démocrates, on les sent quand même un petit peu inquiets et aussi stressés, car... On sent que les gens sont parfois fatigués de la tension qu'a mis Donald Trump pendant ces quatre dernières années.
Laurence Haïm.
Alors moi je suis très contente, Lionel, de savoir que vous êtes en Arizona, parce que je pense que c'est un état important, c'est un état qui a toujours été républicain avec le sénateur John McCain qui était candidat à l'élection présidentielle contre Barack Obama en 2008. Et c'est un état où on dit que cet état toujours républicain peut basculer côté démocrate pour Biden. Qu'est-ce que vous sentez sur le terrain en Arizona ? Parce que l'Arizona, c'est un état important avec ce système, encore une fois, de grands électeurs.
Oui, traditionnellement, c'est effectivement une terre républicaine. Il est notamment porté par Mark Kelly, qui lui est candidat au Sénat. Mark Kelly, c'est un ancien astronaute. Il est marié aussi à Gabrielle Gidford, qui est une élue qui avait reçu une balle dans la tête lors d'une fusillade à Tucson, ici en Arizona. Donc, il porte aussi, on va dire, la candidature de Trump, même si c'est pour le Sénat. Mais en tout cas, il donne une impulsion. Et on sent que... En tout cas, là, je me trouve à la frontière là en ce moment, donc à Nogales, donc près du mur. Là, avec les restrictions de Donald Trump, Nogales est devenue une ville fantôme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de commerce, il n'y a plus de passage, les gens ne travaillent plus, c'est vraiment impressionnant. Les magasins sont tous fermés, donc eux, ils en ont marre, donc ils espèrent que Joe Biden va lâcher un petit peu de lest là-dessus. Donc on sent que ça frémit côté démocrate, effectivement. Ouais.
Mais c'est ça qui est intéressant, et je trouve qu'en Arizona, comme vous le dites, Lionel, il y a tous les problèmes de l'Amérique. Problème de l'immigration à Nogales, problème de l'hésitation, problème de la pandémie avec ses magasins fermés, problème de ce choix. Et c'est ça qui est compliqué dans cette élection. Il y a 50 États américains, chaque État est un pays, avec les problèmes qui reviennent, et avec des gens qui sont très divisés. Et comme Lionel l'a rappelé, il y a aussi ces élections sénatoriales. Ça va être très important de savoir si le Congrès américain, oui, début novembre, bascule côté démocrate ou côté républicain.
Côté républicain. Nouveau coup de com' pour Biden cette semaine, aussi l'entrée en campagne de Barack Obama, l'ancien président démocrate, qui a une voix qui compte encore beaucoup aux États-Unis. En parlant de voix qui compte, Laurence Haïm, vous avez écrit et réalisé le documentaire Melania Trump, cet obscur objet du pouvoir. On découvre Melania, son enfance, son parcours, ses ambitions et 4 années en tant que première dame. Elle est devenue un modèle pour beaucoup de femmes américaines, comme Claudia, qui a dépensé des dizaines de milliers de dollars en chirurgie esthétique pour lui ressembler physiquement, et pour qui Melania est l'exemple à suivre.
Melania me rend plus sûre de moi. Elle m'oblige à m'éduquer, à être une personne plus forte. Je lis à propos d'elle, je me suis rendue à la librairie, je lis en ligne sur comment être une femme forte et puissante. Elle est la première dame des États-Unis. Comment pourrais-je ne pas apprendre de la femme numéro un, l'exemple des États-Unis ?
Et vous expliquez qu'il y a une organisation qui s'est mise en place qui s'appelle Women for Trump. Son objectif, que les femmes se reconnaissent en Melania et qui finissent finalement par voter autant pour Melania que pour Donald.
Oui, mais l'idée de ce documentaire, il est parti pour moi après l'élection de 2016, quand j'ai vu les chiffres. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en novembre 2016, les femmes américaines avaient massivement voté pour Donald Trump, alors qu'Hillary Clinton se présentait contre lui. Donald Trump, 10 jours avant la campagne, avait tenu des propos outranciers sur les femmes, d'une vulgarité absolue. Mais dans les banlieues, eh bien, les femmes disaient « oui, mais c'est des propos de vestiaire, Donald Trump nous représente, etc. » Et en fait, je me suis dit qu'on parlait beaucoup en France de MeToo et qu'on n'allait jamais le voir, ces femmes qui aimaient Trump. Et puis Melania Trump était là j'entendais toujours quand je voyageais aux États-Unis, oh, Melania elle est tellement extraordinaire, Melania s'habille tellement bien, Melania nous représente, nous qui sommes mariés à des hommes qui sommes parfois difficiles. Et je me suis rendu compte qu'elle avait véritablement une influence politique et qu'elle représentait ce que j'appelle, et beaucoup de gens m'ont critiqué pour ça mais j'assume, un féminisme conservateur. Et je crois que l'Amérique nous donne toujours des leçons sur des mouvements de société qui débutent aux États-Unis et qui ensuite se répercutent en France. Et là, j'ai eu envie d'aller voir des femmes défendant Trump, aimant Melania Trump et défendant une certaine idée de valeur conservatrice à travers aussi la manière dont elle se montrait.
D'un point de vue anthropologique, si j'ose dire, c'est hyper intéressant. Vous avez eu raison de le faire, mais enfin, force est de constater que le premier discours de Melania Trump a été quand même très inspiré par celui de Michelle Obama.
Elle a plagié et on le voit dans le documentaire qui sera diffusé le 2 novembre.
Donc c'est fondateur de la réflexion de ces femmes,
mais
c'est qu'elle a appliqué à Michelle Obama.
Oui, c'est fondateur de voir, en tout cas dans ce documentaire, à quel point Melania Trump, c'est pas simplement plagier un discours, parce que ça c'était l'équipe de Donald Trump qui était jaloux de l'influence de Melania Trump, qui avait essayé de faire quelque chose pour montrer voilà. Moi, je pense que Melania Trump, elle représente une certaine image de la femme trumpiste. Et les gens, ils ont élu, il y a une moitié de l'Amérique qui, en 2016, a élu Donald Trump. Et là, on est tous en train de se poser la question de savoir quelle est véritablement l'influence de Trump dans l'Amérique. Et cette élection, à travers Melania Trump, à travers Donald Trump, c'est de voir si pour nous Européens, pour nous Français, l'Amérique qu'on aime, elle est morte ou elle existe. Où elle existe encore.
Je comprends.
Et je crois que c'est ça, cette élection. Et j'avais envie, à travers le visage de cette belle femme, parce qu'elle est très jolie, Melania Trump, de voir si c'était simplement, comme on le dit dans les déjeuners et dîners, mais c'est une potiche, une ancienne mannequin, elle n'a pas d'influence, ou si elle représentait autre chose.
Et ça va beaucoup plus loin que ça. On le découvre et on le comprend très bien dans votre documentaire, diffusé donc le 2 novembre à 20h30 sur la chaîne parlementaire.
Un bel hommage à Buñuel, en plus.
Et vous pouvez le voir sur la plateforme Arte aussi.
Et merci, Lionel Gendron. On vous retrouve dès demain matin à 8h sur notre antenne pour la Minute Américaine. Dans un instant, on revient un peu à vous, Bruno Solo. On parle musique et puis vous laisserez un message sur le répondeur du journal inattendu. A tout de suite.
Le journal inattendu de Bruno Solo avec Ophélie Meunier sur RTL. Journal inattendu sur RTL avec Bruno Solo et Ophélie Meunier.
Alors Bruno Solo, un peu énervé quand il parle de Donald Trump, beaucoup plus doux, en tout cas au niveau du visage, quand il entend Beethoven, le deuxième mouvement Allegretto de la 7e symphonie. Alors il paraît qu'enfant, Bruno Solo, vous rêviez d'être chef d'orchestre.
Ouais.
Pourquoi vous avez renoncé ?
Parce que c'est difficile. Parce
c'est
que je n'étais pas extrêmement doué en solfège, que j'avais une approche de la musique que je voulais instantanée, que je voulais tout de suite jouer et tout. C'est pour ça que je suis devenu batteur d'ailleurs. qu'un instrument de paresseux au départ, et puis qu'après, l'instrument le plus compliqué qui soit, mais pour très bien en jouer, c'est compliqué. Mais pour avoir des bonnes bases et tout, c'est assez simple. Et bon, voilà. Mais oui, je suis encore fou de musique classique, au point de lire beaucoup de choses sur les chefs d'orchestre. J'ai une passion pour les chefs d'orchestre, et un notamment qui s'appelle Carlos Kleiber, et qui est pour moi le plus grand chef d'orchestre qui ait jamais existé, bien au-delà de Toscanini, de Furt Wangler et surtout de Karajan. Mais voilà, Claudio Abbado, Seiji Ozawa, c'est des gens dont j'ai lu beaucoup de choses et j'ai une passion. J'ai dirigé toutes les symphonies de Shostakovich, de Beethoven, de Brahms, de Haydn aussi, que j'aime beaucoup, qui est l'inventeur quasiment de la symphonie. Et voilà, et ça, pour moi, là, le deuxième mouvement de la symphonie, la septième de Beethoven, c'est la chose la plus pure, la plus somptueuse qui ait jamais été écrite par un humain.
Voilà. Alors, je ne sais pas si vous rêviez aussi à un moment donné d'être chanteur de rock, mais vous adorez les Beatles.
Ah oui.
On écoute Dear Prudence.
Belle histoire, cette chanson.
Alors, ça vous évoque quoi, les Beatles ?
À tout. Mon initiation, mon éveil à la musique, à la langue anglaise, à la civilisation anglaise, à l'idée d'avoir rêvé d'être anglais dans les années 60. J'aurais tellement aimé être anglais dans les années 60. Pour leur humour, pour plein de choses. Il y a des trucs en sport, ils m'agacent. Mais pour tout le reste, je les adore. Sauf en sport. Je suis toujours contre l'Angleterre en sport, dans n'importe quel sport. Mais pour tout le reste, par principe. Par principe français, chauvin, imbécile. Pour tout le reste, j'adore les Anglais, j'adore l'Angleterre. Et Dear Prudence, en plus, c'est une chanson très particulière dans l'œuvre des Beatles. C'est sur l'album blanc, c'est l'album de la séparation et pourtant le plus cohérent, le plus beau, le plus à mon goût en tout cas. Et c'est une chanson qui est adressée à Prudence Farrow, qui était la sœur de Mia Farrow et qui était en train de sombrer dans la secte, dans laquelle, à un moment, une secte un peu indienne, un peu gourouisante, qu'ont fréquenté les Beatles, dont ils se sont détachés et ils ont demandé à Prudence de la suivre, sauf que Prudence est restée là et ça a causé sa perte. Et donc cette chanson est assez bouleversante de ce point de vue-là.
Alors chaque semaine dans Journal Inattendu, je propose à mon invité de laisser un message à une personne de son choix. Si vous avez une révélation à faire, une demande à faire passer ou si vous avez envie de parler à quelqu'un à qui vous n'avez jamais eu l'occasion de parler, ben vous pouvez le faire maintenant. Alors à qui avez-vous choisi de laisser un message, Bruno Solo ?
Alors, c'est étrange parce que, vous savez, c'était la partie la plus difficile pour moi parce que une question qui va sans aucun doute rester sans réponse. Je suis comédien.
On ne sait jamais.
Les comédiens, on a un ego, évidemment. On le met plus ou moins en avant. On essaye de faire attention un petit peu, mais on a la capacité, je crois, en tout cas, je fais partie de cela, comme tous les gens qui font des métiers un peu égotiques, comme ça, les chefs d'orchestre, les chefs cuisiniers, les artistes, etc. Il faut avoir la capacité de se dire de temps en temps, je ne suis peut-être pas la personne pour ce rôle, la personne pour ce plat, la personne pour cette symphonie, celui qui va... Et je me dis, on a cette capacité de temps en temps, nous, à nous dire, bon, bah écoutez, non, franchement, je suis pas le personnage, et Dieu sait si j'aurais eu envie de le défendre, mais il faut avoir l'humilité et la lucidité de se dire non, et voilà. Eh ben, est-ce que les hommes politiques auraient, si je demandais à... Bah, celui qui nous représente le plus emblématique, Emmanuel Macron. Je dis, si tout d'un coup, vous aviez la conviction, Emmanuel Macron, la certitude que quelqu'un est plus capable de défendre cette France, dont je ne doute pas que vous l'aimiez, évidemment, je ne doute pas qu'il aime la France, mais si quelqu'un vous disait « je suis plus capable que toi de le faire », est-ce qu'il aurait la délicatesse, l'humilité, l'intelligence, la lucidité se retirer ? Moi, je demande aux hommes politiques si, à un moment, face à des convictions, à la conviction profonde qu'un autre pourrait mieux faire qu'eux, il serait capable de se retirer comme nous le faisons. Alors évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes. Diriger un pays, ce n'est pas comme faire une pièce de théâtre. Mais je veux dire, est-ce que des hommes politiques seraient capables ? Donc j'ai envie de dire à Emmanuel Macron, dont je ne doute pas de l'intelligence et de la culture, est-ce que s'il avait la certitude que quelqu'un pourrait mieux faire que lui, il se retirerait ? Et je ne désigne pas un homme politique en particulier, c'est une question plus globale, plus philosophique. Voilà, ça c'est une vraie question, pour moi fondamentale.
C'était le message de Bruno Solo à nos gouvernants. Merci d'avoir été avec nous. Je vous laisse filer car vous jouez juste après cette émission.
Absolument.
À 15h30, les nouveaux horaires de 10 ans après, vendredi 18h30, samedi 15h30 et 18h30 et dimanche 15h.
Ah, merci.
Cette émission est à écouter ou réécouter en podcast sur l'application RTL. C'est la semaine américaine tout de suite, c'est confidentiel, pardon, présenté par Jean-Alphonse Richard, consacré à Donald Trump justement. La semaine prochaine, mon invité c'est Louane. Très bon week-end à tous sur RTL. Merci de nous écouter et rendez-vous samedi prochain
à
12h30.
Louane.
Le journal inattendu sur RTL.